Je vous l'ai dit depuis le début de ce petit pylône, après les informations de 10h, enfin dans la tranche 10h11, nous recevons aujourd'hui Bernard Gordon, qui est traducteur littéraire, et qui vient nous parler d'un livre qui nous a frappé, enfin qui a frappé un peu notre imagination, puisqu'il s'agit d'un livre intitulé Le Diable en Belgique, et qui est en réalité un recueil de légendes concernant notre bon pays. On va en parler tout de suite avec Bernard Gordon, que je me profite pour saluer, d'ailleurs il est là à côté de moi. Mais peut-être, Monsieur Gordon, on va écouter une légende pour savoir exactement de quoi il s'agit. Hein? Alors j'ai demandé à Philippe de Wolf, maître en la matière, de bien vouloir nous lire une légende très courte. Hein? Il y en a de très longues, enfin de beaucoup plus longues. Une légende très courte de manière à être tout à fait dans le vif du sujet.
Et elle s'appelle une créature d'Apocalypse. Ça se déroule à Ban. Ban est un beau petit village d'agriculteurs édifié au bord de la pittoresque et capricieuse Semois, à l'extrémité méridionale de la province de Namur, dans un vallon entouré de hautes collines rocailleuses. Deux paysans, mari et femme, y vivaient, en s'accordant tant bien que mal, car, comme c'est souvent le cas, tous deux aspiraient à la domination absolue. Un jour, alors que la femme soutenait que l'avoine n'était pas encore mûre pour la moisson, l'homme, entêté, alla la couper. En l'apprenant, son épouse lança dans sa fureur l'imprécation d'usage dans les Ardennes. « Que la moisson aille au diable !» L'offre ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd, et le démon de gagner le champ. Il attendit que le fermier approche pour procéder à la récolte, et dès qu'il le vit, lui réclama formellement le bien que lui avait cédé la femme. Ils discutèrent, comme c'est discuter un paysan wallon quand il s'agit de défendre sa propriété, et comme le diable, esprit de contradiction et chicanier par nature, peut le faire. Mais ils durent transiger, car ils ne cédaient ni l'un ni l'autre. Ils convinrent de se retrouver le lendemain, apportant chacun un animal, dont l'autre devrait deviner le nom. Celui qui n'y parviendrait pas perdrait tout droit sur l'avoine. Dès la tombée de la nuit, le paysan alla s'embusquer à proximité du chemin que devait emprunter le diable pour gagner le lieu du rendez-vous. Il attendit des heures durant, tout sens aux aguets. Ce n'est qu'au petit matin qu'il aperçut le malin, traînant une bête étrange que notre homme n'avait jamais vue, fût-ce en illustration, et qui devait probablement être une entité infernale. Par bonheur pour le wallon, le diable distrait cria à l'adresse de l'animal qui ne prétendait pas avancer « Hu, bouc, hu, verbouc, hu !» Le paysan n'en demandait pas tant et il regagna en toute hâte sa maison. Il mit au courant sa femme qui, repentie de sa stupide exclamation et bien décidée à duper le fourchu, imagina de oindre son corps de miel puis de se rouler dans les plumes d'un oreiller éventré. Elle se retrouva de la sorte métamorphosée en un oiseau gigantesque et unique en son genre, mais c'est un avis personnel que le diable aurait dû reconnaître, car à cette époque, on avait l'habitude d'enduire précisément de plumes les sorcières, ces féales. Comme convenu, ils se retrouvèrent sur le champ d'avoine et le diable demanda aussitôt au paysan avec un air de triomphe « De quel animal s'agit-il ?»«
Quelle question !» s'exclama malicieusement le cloquant. « C'est tout simplement un verbouc !» Et désignant sa femme, il ajouta « À ton tour, à présent, dis-moi quel est cet animal !»
Le diable eut beau faire plusieurs fois le tour de la paysanne, l'examinant sous toutes les coutures, il ne réussit pas à l'identifier. Il finit par donner sa langue au chat et renonça à l'avoine, mais avant de regagner ses pénates, poussé par la curiosité qui le dévorait, il demanda à son vainqueur « Maintenant que ta moisson ne court plus aucun danger entre nous, dis-moi, quel animal est-ce »«
C'est ma femme !» dit l'autre, débordant de fierté.
« Pauvre de moi !» soupira le malin. « On ne pourra plus dire. Les femmes, le diable seul les comprend, mais plus modestement, même le diable ne comprend pas la femme. »
Merci à Philippe de Wolf pour cette lecture de cette légende, une parmi tant d'autres, légende intitulée « Une créature d'Apocalypse » et qui figure dans ce livre intitulé « Le diable en Belgique ». Et on voit « Le diable en Belgique » de Roberto J. Perrault. Et c'est Bernard Gordon qui présente ce livre. Alors Bernard Gordon, c'est une légende parmi tant d'autres, je l'ai dit, il y en a beaucoup comme ça dans ce livre, et ce sont toutes des légendes belges qui nous font donc parcourir l'ensemble de notre pays. Alors bon, d'où vous est venue l'idée de traduire, enfin d'adapter un livre comme celui de M. Perrault?
C'est-à-dire que c'est un cas très curieux, ce sont des légendes belges, en fait, qui ont été écrites ou réécrites en Amérique latine.
Mmh.
Cet écrivain, Roberto J. Peiro, a vécu en Belgique entre 1909 et 1923, et régulièrement, il a envoyé des contributions, même pendant la Première Guerre mondiale, au journal local La Nation, qui est le monde latino-américain. Et privé, par exemple, de sa bibliothèque pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il avait manifesté trop de sympathie vis-à-vis des Belges contre l'occupant allemand, il s'est intéressé au folklore belge. Et de ce fait, il a été amené à recueillir des légendes, soit de la bouche de certains de nos compatriotes, soit de la bouche de certains de ses amis folkloristes, tant flamands que wallons. Et ces légendes ont été, comme je l'ai dit, publiées dans différents journaux. 25 ans après la mort de Roberto J. Peiro, son fils, en 1953, a publié une sélection de ses textes, mais non complète, qui s'intitulait El Diablo en Belgica, donc le diable en Belgique. Ce livre, qui était introuvable par exemple à notre bibliothèque nationale, je l'ai resitué grâce à une bibliographie. Je me suis évertué à le trouver et j'ai fait une adaptation non seulement des légendes sélectionnées par le fils, mais également des autres légendes qui se trouvaient encore perdues, presque sombrées dans l'oubli, dans les différentes revues.
Mm-hmm.
Et ça fait que d'un recueil de 16 contes, j'en ai fait un de 23 en traduction française. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas une traduction française qui s'éloigne encore plus des racines locales des légendes. En fait, je me suis évertué également non seulement à recréer fidèlement le contexte, mais à retrouver la source de ces légendes. Et de ce fait, nous avons choisi ici un échantillon particulièrement représentatif. Cette légende-ci, j'abrège, a connu une première version en 1846, une version allemande.
Mm-hmm.
Deux ans après, cette version allemande était traduite librement en français. De là, il y a eu des versions néerlandophones, reprises au début de ce siècle en français, dans Wallonia, qui est un périodique de folklore assez connu au début du siècle, et c'est là-dedans que Peiro en prend connaissance, et lui en fait une version espagnole. Vous imaginez le trajet que cette légende a fait. Alors je me suis vertué à resituer cela dans le contexte original, mmh. et surtout à mettre l'accent, par exemple, sur des créatures typiquement wallonnes, par exemple, comme le verbouc. C'est assez curieux, cette créature, le destin, on pourrait en parler longtemps, mais pour vous situer...
C'est un animal de légende aussi, le verbouc.
C'est un animal de légende. En fait, vous avez une assimilation curieuse. Le contexte de la légende que Philippe de Wolf vient de vous lire est au départ Vilvoort. Cette légende se déplace tout doucement vers le sud du pays. Et en fait, le nom du verbouc, créature qui n'existe pas au départ à Vilvoort, mm-hmm. Vient de Bokkerijders, ce sont des chevaucheurs de boucs du côté flamand, mais surtout d'une association de malfaiteurs à la fin du XVIIIe siècle. Et on trouve, c'est assez curieux au point de vue touristique, juste à la frontière belge, à Aviot, dans l'église d'Aviot, non seulement une gargouille du verbouc, au sujet duquel Albert Dopagne de la Fondation Charles Plisnier a fait une longue étude, mais nous trouvons également une statue de Sainte Marthe terrassant, ce que les habitants appellent là-bas le verbouc. Et on se rend compte, en faisant des recherches, que Sainte Marthe, d'après la légende dorée de Jacques de Voragine, a en fait été à l'origine de l'édification de Tarascon en France. Et elle terrasse la Tarasque. Et le verbouc, en fait, est la Tarasque transposée dans les Ardennes, tant française que belge.
C'est ça,
tout
oui.
un parcours.
Tout ça est généralement expliqué,
tout ça est expliqué dans cet ouvrage.
Dans le livre. Mais bon, le diable en Belgique, est-ce que c'est propre à la Belgique ou est-ce que dans tous les pays on retrouve des légendes avec le diable, avec des petits bonhommes
Non, on retrouve ça vraiment dans... Le diable est un des thèmes les plus anciens de ce qu'on appelle la littérature fantastique ou bien du terroir des différents pays. Mais dans cet ouvrage, on met par exemple en évidence des créatures typiquement belges comme les nutons, les sautets, qui sont davantage localisés dans le sud du pays, sont donc des petits nains, ou bien les cabotes du côté flamand. Et là, c'est proprement belge. Il y a d'autres légendes qui auraient pu se dérouler dans un autre contexte, mais vous avez également un texte qui est plus folklorique peut-être, mettant davantage l'accent sur des traditions même historiques, les sorcières de Mons. Cet écrivain sud-américain a, pendant la Première Guerre mondiale, eu l'occasion de consulter des documents d'archives à Mons, documents qui ont été détruits depuis, et c'est le seul témoignage d'un procès de sorcellerie retentissant qui s'est déroulé à Mons à la fin du XVIIe siècle, par exemple. C'est assez curieux. Seul document concernant la Belgique qu'on retrouve en Amérique latine.
C'est ça. On va continuer la discussion tout de suite avec une petite bouffée musicale. Bernard Gordon, Le Diable en Belgique, une adaptation d'un livre de Roberto J. Perrault. Bernard Gordon, ça vous a pris combien de temps de récolter tout cela et surtout bon, de donner les explications nécessaires à la compréhension des légendes et...
C'est difficile à estimer, mais on peut dire que j'ai commencé mes investigations il y a près de 2 ans. Bien entendu, dans l'entrefait, je n'ai pas fait que cela. Je me suis trouvé, au départ, je pensais que c'était un cas relativement facile à résoudre, c'est-à-dire simplement traduire. Et je me suis trouvé confronté à de considérables difficultés. En l'occurrence, la plupart des noms de lieux, de personnages, étaient estropiés. Alors je me suis dit, ou bien je fais la traduction purement du premier jet, ou bien je pousse mes investigations beaucoup plus loin. Et de fil en aiguille, je suis venu à retrouver les sources de l'écrivain. Et il m'a semblé beaucoup plus intéressant de compléter cette traduction, non seulement par des notes, mais par une introduction et une bibliographie relativement complète, qui comporte d'ailleurs plus de 500 références, en mentionnant tous les cotes des ouvrages à la Bibliothèque Royale. C'est-à-dire que les personnes qui voudraient pousser les investigations plus loin que moi peuvent trouver tous les éléments pour le faire dans la biographie de cet ouvrage.
C'est important.
Oui, elle est assez considérable. Parce que c'est assez important, on fait souvent des biographies très approximatives, c'est très bien, mais il faut savoir également où trouver les ouvrages. Et dans ce cas-ci, je dis où vous pouvez trouver les sources.
C'est ça. Est-ce que vous avez été parfois sur place dans les régions, vous assurer que les légendes étaient bien vivantes encore là-bas ou pas ?
Je n'ai pas pu y aller partout, mais par exemple, j'étais à Viotte, j'étais dans la région de Spa pour le fait du diable, une autre légende qui est présentée. J'étais dans le nord du pays, je me suis rendu près de la grange d'Amelgem pour voir ce qu'il en était. Elle a disparu dans l'entrefaite. Dans la mesure du possible, je le fais. Dans le temps qui m'était imparti, ça n'a pas été possible dans tous les cas, mais j'essaye de le faire parce que ça donne des éléments supplémentaires quand, par exemple, au décor. C'est beaucoup plus intéressant, mais c'est évidemment un travail beaucoup plus conséquent dès lors.
Est-ce que généralement les gens sont au courant de leur propre légende ? Ils connaissent la légende qui concerne leur région ou leur pays en particulier ou...
Pas toujours. On est en train de redécouvrir en Belgique, je crois, les racines populaires. Il y a une initiative de votre collègue de Liège,
Guy Lemaire,
qui est d'ailleurs pas mauvaise non plus. Et je crois que ça se situe un peu dans la continuité du mouvement écologiste qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années. On revient aux racines populaires. Ce qui m'a fort intéressé dans ce bouquin, c'est qu'on se rend compte finalement qu'au niveau belge, les légendes qui sont recueillies ici sont parfois tributaires l'une de l'autre. Je veux dire par là que certaines légendes flamandes sont parfois originaires de Wallonie et vice-versa. Alors il y a une complémentarité au niveau certainement folklorique des différentes composantes de notre pays. Et c'est intéressant de voir combien nous avons un passé populaire riche.
Bien, bien. Bon, je vous rappelle le titre de cet ouvrage, c'est Le Diable en Belgique, donc une adaptation du livre de Roberto J. Perrault par Bernard Gordon. C'est une manière agréable de faire le tour de la Belgique, côté wallon, côté flamand, avec des légendes qui concernent bien sûr, qui mettent en scène le diable en général, sous toutes ses formes. On rappelle un peu ses formes, ce sont les nutons, les sautés, les kabouters du côté flamand.
Oui, là ce sont davantage des petites créatures diaboliques, mais le diable qui revêt l'apparence de gentilhomme, de créature comme le verbe beaucoup autre, apparaît dans cet ouvrage comme une créature sympathique finalement. Et en général, le diable est d'ailleurs dupé à tour de bras par le bon paysan, et le diable est pratiquement ridiculisé. On n'a pas peur du diable, au contraire.
Bien, donc cet livre va mettre même dans les mains des enfants, il n'y a aucun problème.
Très amusant.
Bien, ce livre, il est édité aux éditions Recto Verso, qui est une ASBL Recto Verso. On peut donner l'adresse peut-être ?
Oui, 18 rue des Éperonniers à 1000 Bruxelles. Nous avons publié depuis près de 10 ans quelques 40 volumes touchant à la Belgique, littérature policière et autres. Et je crois que ça valait la peine d'attirer l'attention sur notre existence.
Merci. Diable en Belgique, Bernard Gordon, édition Recto Verso, 18 rue des Éperonniers à 1000 Bruxelles.